pour ceux qui sont grands-parents, le fait d'avoir des petits-enfants est, je pense, une certaine revanche sur la vieillesse. À travers les petits-enfants, les enfants, c'est un peu la vie de l'homme qui continue. Et on peut comprendre cette immense joie d'Abraham d'entendre cette promesse d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Mais Dieu veut beaucoup plus pour l'être humain. Il veut non seulement qu'il prolonge sa vie par une descendance, mais il désire aussi que sa propre vie ne s'arrête pas, que dans son corps et son âme, il puisse vivre éternellement. Il désire la résurrection. Je voudrais, dans cette homilie de ce soir, voir dans un premier temps que la résurrection du Christ est possible, dans un deuxième temps, qu'elle est certaine. Bien sûr, la résurrection est impossible pour l'être humain, mais elle n'est pas un obstacle à Dieu, car il est tout-puissant. Nous l'avons entendu dans la première lecture, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y a pas longtemps, sur un réseau social, quelqu'un objectait à la foi catholique le Big Bang. Le petit problème pour cette personne, c'est qu'elle ne savait pas que le Big Bang avait été découvert par le chanoine Lemaître, un prêtre belge. Il n'y a aucune opposition entre cette théorie du Big Bang et que le Dieu soit créateur du ciel et de la terre et qu'il soit tout-puissant. Dieu maîtrise complètement la matière. Il a la capacité de ressusciter quelqu'un. Nous avons eu, il y a environ un ou deux mois, le témoignage d'une personne guérie miraculeusement. Cette personne était malade durant 42 ans, paralysée, et le Seigneur l'a guérie. Ces miracles sont pour nous un signe fort de la réalité, de la toute-puissance de Dieu sur la matière, sur notre corps. De plus, dans la première lecture, nous avons entendu Dieu dire « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Dieu est esprit. Si nous sommes à l'image de Dieu, c'est qu'en plus de notre corps, nous avons aussi un esprit, notre âme, qui n'est pas matérielle. Et donc cette âme, en fait, ne vieillit pas avec le temps. Et elle traverse la mort, elle continue d'exister après la mort du corps. Et donc, il est logique pour le Seigneur que s'il nous a fait avec une âme qui continue d'exister après notre mort, eh bien que notre corps aussi puisse bénéficier de la résurrection. À l'origine, Dieu n'a pas fait la mort pour l'être humain. La mort est entrée dans le monde à cause du péché originel et de la jalousie du diable. Mais le Seigneur, et nous le fêtons ce soir, a voulu nous sauver de cela. Ce n'est pas la foi qui a créé l'événement de la résurrection, mais c'est la résurrection qui a créé la foi. L'Église nous dit dans son catéchisme, le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. Il y a des preuves certaines de cette résurrection, des preuves accessibles à la raison et qui ouvrent au don de la foi. Je vous en donnerai plusieurs ce soir. Demain matin, je continuerai à en donner. Je comprends que demain matin, vous dormiez un peu plus, mais l'homélie sera accessible sur Internet, puisque toutes les homélies, au moins que je prononce, et celles du Père Patrick, sont enregistrées. La résurrection est certaine. Nous avons entendu dans cet évangile que les femmes en sont le premier témoin. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Elles sont les premières témoins auprès des apôtres, mais elles témoignent encore aujourd'hui pour nous. Alors comment et pourquoi ? Eh bien parce que c'est bien établi que, hélas, la femme n'avait pas le droit de témoigner dans les lois juives de l'Antiquité. Flavius Joseph, historien juif, le rapporte, et le philosophe antichrétien Celse se moquait de nous justement à cause de cela, que les premières témoins de l'événement le plus important de notre foi soient des femmes. Et c'était irrecevable à l'époque. Et cela témoigne pour nous de la véracité de ce qui a été rapporté concernant la résurrection de Jésus. Car si les premiers disciples, les apôtres, avaient voulu inventer une histoire pour convaincre leurs contemporains, ils auraient mis bien sûr des hommes pour témoigner au départ. Deuxième chose, nous savons, et c'est attesté, c'est reconnu historiquement, que les apôtres ont une grande importance dans les débuts de l'Église. Ce sont eux les premiers responsables. Il est reconnu par tout le monde que Pierre a vécu comme évêque de Rome, que Paul aussi y a été. Cela ne fait pas discussion. Ces apôtres et les écrits de l'Antiquité chrétienne montrent qu'ils jouissaient d'un grand honneur auprès des chrétiens. Ce sont eux qui rapportent que Jésus est ressuscité dans le monde. Dans les évangiles, à la fin des quatre évangiles, nous voyons écrit qu'en fait, ces apôtres sont sceptiques, ils ont du mal à croire. Les disciples sont lents de cœur, d'intelligence, dit Jésus. Et le Seigneur doit montrer de nombreuses preuves pour les convaincre. Cela n'est pas à leur honneur. Et c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied pour convaincre les Juifs et les païens que ces apôtres sont des chefs légitimes de l'Église. Et bien pourtant, c'est bien ce qui est écrit. Ce qui montre que les premiers chrétiens, les apôtres, n'ont pas voulu donner un récit imaginaire. Ils ont mis vraiment ce qui s'était passé. De plus, et je finirai pour ce soir avec cela, ils n'ont aucun intérêt à mentir, à dire que Jésus est ressuscité. Mais vraiment, aucun intérêt. Ce n'est pas source d'enrichissement personnel. Et non seulement cela, c'est source de mort. Puisqu'à cause de ce message, ils mourront tous martyrs, sauf Saint Jean, qui sera quand même mis dans l'eau brûlante, dans l'huile brûlante, mais il sera guéri miraculeusement. N'empêche que ce passage n'est pas agréable du tout, et donc il n'y a aucun intérêt à le proclamer pour eux. Si c'était un mensonge, eh bien, ils se seraient tus depuis longtemps. Mais s'ils ont témoigné par le monde, c'est que c'est vrai. La mort est vaincue, ils ne craignaient plus la mort, Jésus est ressuscité. En conclusion, oui, Dieu maîtrise la matière par sa création en ressuscitant Jésus et aussi à chaque messe en transformant le pain et le vin en son corps et en son sang. Dans un de ses livres, saint Thomas d'Aquin se pose cette question. Mais Jésus, que nous recevons à chaque messe? Son corps, dans quel état il est? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il était comme bébé à la crèche? Comment il est sous l'apparence du pain? Et saint Thomas répond, je ne fais pas sa démonstration à nouveau, il répond, son corps, il est ressuscité. Son corps est ressuscité. Et donc, à cette communion de Pâques que nous allons vivre dans quelques instants, qui est le sommet du carême, de la fin du carême, eh bien nous recevrons le corps de Jésus ressuscité. Amen.